France Culture.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux enjeux des élections municipales de mars prochain. On s'intéresse ce soir à la carte scolaire et plus particulièrement aux fermetures d'écoles en zone rurale. En raison du déclin démographique français, il y aura à la rentrée prochaine 150 000 élèves en moins dans le premier et le second degré. Résultat, le ministère de l'Éducation va supprimer 4 000 postes d'enseignants et fermer de nombreuses classes. Les communes rurales n'échapperont pas à ces fermetures. Et beaucoup vont devoir mettre en place des regroupements scolaires. Une décision prise à contre-cœur par les élus qui redoutent une désertification de leur village. Exemple à Curzé-sur-Vonne, au sud de Poitiers, dans la Vienne. C'est un reportage d'Akin Kasmi.
Donc là, on arrive dans la mairie. Monsieur Salès, secrétaire de mairie.
Bonjour.
Et puis nous voilà dans mon bureau.
Curzé-sur-Vonne est une petite commune rurale de 397 habitants. Ici, pas de commerce de proximité et la boulangerie a fermé il y a déjà plusieurs années. La petite école maternelle, créée il y a tout juste 10 ans, avec ses deux classes et ses 41 élèves, rythme donc la vie du village. Mais depuis la fin mai, elle est sous la menace d'une fermeture. En effet, avec la baisse démographique, le rectorat et la préfecture souhaiteraient la regrouper avec d'autres communes voisines. Alors, si initialement Rosène Sénélas, la maire sans étiquette de Curzé-sur-Vonne, a dû signer à contre-cœur la lettre de fermeture de son école, en espérant obtenir en échange une marge de négociation avec l'Académie de Poitiers, elle s'est finalement rétractée. Résultat, pour l'instant, la fermeture est suspendue.
Le 28 mai dernier, j'ai signé une lettre d'engagement dans laquelle on anticipait la fermeture de petites écoles, mais où il était quand même précisé que le maintien de notre école maternelle devait être étudié. Suite à cela, on a été inscrit, chacun de nos villages, dans le dispositif Village d'Avenir. Et un travail a dû être amorcé pour, avec un cabinet d'études, réfléchir au devenir de nos bâtiments scolaires. Je n'ai pas souhaité poursuivre cette démarche parce que je n'ai pas senti qu'il y avait une réelle volonté d'étudier le maintien de notre école maternelle. Donc je me suis désolidarisée de cette démarche. Et aujourd'hui, je souhaite que notre école maternelle, elle continue à vivre, elle continue d'accueillir des enfants dans les prochaines années.
Une situation qui inquiète beaucoup les habitants, qui ont appris la nouvelle fin mai sur les réseaux sociaux, sans avoir été prévenus au préalable, reconnaît l'élu.
Alors, effectivement, les parents viennent me rencontrer, mais pas que les parents, finalement. Les citoyens aussi, les citoyens, les habitants de Curzé viennent me rencontrer pour savoir comment je me positionne, quelle vision j'ai de Curzé demain sur l'école. Donc, je leur explique qu'effectivement, je suis attachée à l'idée que cette école maternelle elle puisse être maintenue le plus longtemps possible.
Mais au-delà des élèves, le maintien de l'école est aussi primordial pour l'attractivité du village.
L'école du village, c'est le poumon. C'est le poumon de notre village. C'est les rires des enfants. C'est les enfants qui sortent de l'école, qui vont sur l'air de jeu à côté. C'est la rencontre des enfants avec les habitants un peu plus âgés qui sont sur le village. C'est tout ça qui participe aussi à l'attractivité de notre village. Donc, c'est important de préserver cela. Parce que si demain, Curzé n'a plus d'école maternelle ou bien même des milliers de villages n'ont plus d'école maternelle, qu'adviendra-t-il de nos villages ?
Alors, même si l'édile reconnaît avoir eu des périodes de découragement et hésité avant de se représenter aux élections municipales, face à la puissance et au pouvoir du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, elle se dit prête à se battre pour garder son école. Un combat qui, pour l'instant, est encore bien loin d'être gagné. En attendant, les parents d'élèves tentent de se mobiliser contre la fermeture afin d'éviter de longs trajets pour leurs enfants pouvant aller jusqu'à 40 minutes en bus. À l'image de Julie Crène, dont la fille, âgée de 5 ans, est scolarisée à Curzé-sur-Vonne, nous la retrouvons à la sortie des classes.
En tout cas, les enfants qui sont domiciliés à Curzé et qui vont à l'école maternelle, c'est prévu qu'ils soient rescolarisés sur l'école de Rouillé. Et l'école de Rouillé est beaucoup plus loin. Et quand on prend le temps d'un trajet en bus, plus le temps qu'il faut pour la montée des élèves, la sortie des élèves, attacher tout le monde dans le bus, toute la sécurité des enfants, Il y en a pour bien plus de 30 minutes, et ce qui rallonge quand même sacrément le trajet pour les enfants. Et en plus, ces 30 minutes, s'il n'y a pas plusieurs arrêts en cours de route, est-ce que s'il y a un arrêt aussi au village à côté à Sensé pour récupérer les enfants en âge d'être en maternelle scolarisés à Sensé parce qu'ils iront aussi à Rouillé, enfin voilà, ça rallonge.
L'année dernière, avec la baisse démographique, 2400 classes ont été fermées dans le premier degré, une tendance qui devrait encore se poursuivre à la rentrée, puisque le budget qui vient d'être adopté prévoit la suppression de 4000 postes d'enseignants.
Alors, on vient de l'entendre, les maires et les parents d'élèves n'ont pas vraiment les moyens d'éviter les fermetures d'écoles, d'autant plus que ces fermetures sont jugées inévitables par le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, en raison de la fameuse baisse démographique. Hakim Kasmi a rencontré Édouard Geffray.
D'abord, chaque année, il y a des ouvertures, des fermetures de classes partout en France. Pour vous donner une idée, il y a 150 000 élèves de moins à la rentrée prochaine annoncés dans le système éducatif. Entre 2019 et 2029, nous aurons perdu 1 million d'élèves sur 6 700 000, 1 million d'élèves dans le premier degré. Donc effectivement, inévitablement, ça conduit dans certains endroits à des fermetures de classes parce qu'il n'y a plus d'enfants. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte évidemment de freiner au maximum ces fermetures. On ne prévoit pas des suppressions de postes à proportion de la démographie, mais seulement à moitié moins, pour précisément ne pas fermer partout et accessoirement améliorer le taux d'encadrement de nos élèves.
Alors, en zone rurale, ça va se traduire dans certaines communes par des regroupements, ce qu'on appelle des regroupements pédagogiques intercommunaux. Beaucoup de maires sont inquiets, et de parents aussi, parce que pour certains enfants, notamment des tout-petits, les trajets vont pouvoir être beaucoup plus longs. Par exemple, pour un enfant, les trajets pourront passer de 30, voire à 1 heure pour ceux qui viendront en bus. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces mères et ces parents qui sont inquiets ?
C'est heureusement assez rare qu'on arrive à des temps de trajet aussi longs que celui que vous avez évoqué. Donc les regroupements pédagogiques intercommunaux, d'abord, c'est quelque chose d'ancien. Il y en a aujourd'hui sur tout le territoire national. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que des parents qui seraient confrontés à ça, il faut qu'ils sachent qu'il y en a plusieurs milliers en France et que c'est quelque chose qui fonctionne. Quelle est l'idée, grosso modo, c'est qu'on puisse conserver l'école, la structure école avec le directeur ou la directrice d'école, mais que compte tenu de la baisse du nombre d'élèves, eh bien, une école fait par exemple CP, CE1, CE2, et puis une autre école, peut-être un quart d'heure de là, fait CM1, CM2. Donc effectivement, ça peut signifier du temps de transport en plus. Après, il y a un enjeu qui est travaillé avec les collectivités territoriales autour du transport scolaire pour faire en sorte que celui-ci soit le plus optimisé possible. C'est quelque chose qui, évidemment, va être discuté. J'ai notamment généralisé ce qu'on appelle les observatoires des dynamiques rurales et territoriales dans tous les départements pour travailler ça avec les élus et puis pour réfléchir aussi à l'offre scolaire. Vous savez, moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une classe dans laquelle un enfant de CM2 était le seul de son niveau depuis la petite section. Le seul de son niveau. On ne peut pas non plus souhaiter ça à un enfant. Donc c'est un équilibre. Partout où on peut maintenir ouvert, on maintient ouvert. Lorsqu'il faut s'organiser, on s'organise. À la fin, ce qui compte, c'est la qualité de l'offre scolaire pour l'enfant.
Alors on le sait, à la rentrée, il y aura 4000 postes de supprimés, que ce soit en zone rurale ou ailleurs. Ça veut dire que si on avait dû tenir compte de la baisse démographique, il aurait fallu supprimer le double de postes d'enseignants.
Absolument. Il aurait fallu supprimer 8000 postes si on avait suivi la démographie. Et en réalité, si on avait suivi la démographie depuis plusieurs années, on aurait 15 ou 20 000 postes de moins aujourd'hui dans le système éducatif. Donc nous ne suivons pas la démographie, et tout l'enjeu, c'est justement aussi de manière pluriannuelle, c'est-à-dire qu'on est pour les 10 ou 15 prochaines années. Moi, je pense qu'il faut se projeter en été sur 20 ans. Ce qu'il faut, c'est collectivement se dire que nous devrons accepter probablement une baisse du nombre de professeurs, mais que nous devons aussi collectivement faire en sorte qu'elle ne suive pas la démographie pour améliorer le taux d'encadrement, c'est-à-dire en clair avoir moins d'élèves par classe, et puis pour amortir les effets territoriaux.
Actuellement, la moyenne dans le premier degré est d'environ 21 élèves par classe. Elle a légèrement baissé. C'est un peu plus que la moyenne des pays de l'OCDE qui est environ à 19 élèves par classe. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux maires qui sont démunis face à leurs concitoyens lorsqu'ils doivent annoncer des fermetures de classe ?
En France, nous aurons pour la première fois en 2026, à l'entrée 26, effectivement une moyenne de 21 élèves par classe. Il faut savoir évidemment que c'est variable. Dans le rural isolé, par exemple, dans le rural éloigné, on est à 19,5 élèves par classe. Donc on est déjà sur une moyenne qui est pas loin de la moyenne OCDE, première chose. Deuxième chose, quand on compare avec la moyenne OCDE, on compare avec la moyenne de pays qui, pour la plupart, sont entrés dans un divers démographique il y a 10, 20, voire 30 ans. Et donc les deux situations ne sont pas comparables. C'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer brutalement dans une situation que certains pays connaissent depuis 20 ans, je pense notamment à l'Allemagne ou à l'Italie. Et le troisième élément, c'est que nous ne cessons pas d'améliorer le taux d'encadrement. Vous avez parlé d'une petite baisse. Il y a 8 ans, en 2017, on avait 23,5 élèves par classe. Donc on a déjà baissé de plus de 10% de élèves par classe en l'espace de quelques années. Et une fois encore, ça ne va pas se retourner contre l'école rurale. Vous savez, aujourd'hui, 30% des écoles sont en milieu rural pour seulement 18% des élèves. Donc ce n'est pas ça l'enjeu. Mais l'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que, d'abord, on ferme le moins possible. Et ensuite, que quand on on est obligé de fermer une classe et on propose en face une offre scolaire qui répond aux besoins de l'enfant. Il faut vraiment repartir de ça.
Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, au micro d'Hakim Kasmi. Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire avant les municipales à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.